s'est entendu à dernière nouvelle.
L'Insider Hockey. Aux quatre coins de la ligue, tout le monde lui parle. Puis il fait parler tout le monde.
The one, the only.
L'Insider Hockey. Renaud Lavoie.
Salut Renaud.
Salut Renaud.
Ça va bien les gars ce matin?
Très bien.
Ça va bien toi?
Ça va très bien. Victoire des Bears, ça fait du bien parce que je sais que les gars du tailgate, d'ailleurs Patrick Friolet m'avait prévenu hier, on regardait le football ensemble, m'a prévenu. Attends-toi à ce que si les Bears perdent, les gars du tailgate vont t'attendre avec une brique et un fanal.
Ah oui, comment ça?
Disons que je me moque pas mal de leur Giants, de leur corps arrière chez les Giants.
Jackson Dart, qui est blessé d'ailleurs.
C'est vraiment mal encore.
Quatrième commotion cérébrale, ou excuse-moi, quatre fois testé pour des commotions cérébrales en 7 matchs pour lui.
Ouais,
je pense que ça devrait être pas mal.
On va parler de hockey dans les prochaines secondes, mais on se souvient quand Brian Daboll était débarqué dans la petite tente bleue pour dire envoie sur le terrain.
Oui.
Ça avait fait jaser pas mal. Parlant de ça a brassé puis qu'on est au feu de l'action, là, en plein cœur de l'action. Renaud, t'as vu Oliver Kapanen de proche en fin de semaine? Entre les deux bains, là, Colin, ça brassait juste devant toi, là.
Oui, c'était très, très spécial parce qu'Oliver Kapanen, justement, avait... ce que j'aime d'Oliver, là, c'est que qu'est-ce qu'on disait avant le début ou au début du camp d'entraînement, c'est un gars qui avait une réputation d'être, si tu veux, frileux d'une certaine façon. Je pense qu'il est en train complètement de renverser cette réputation. Puis c'est lui qui avait initié un coup à un joueur adverse de Utah samedi, un coup derrière la tête. Puis là, ben, ça a créé une petite mêlée devant moi. Puis de façon très intelligente, il a décidé qu'il... parce que moi, je suis carrément à la ligne rouge. Il faut comprendre que le banc des Canadiens est très, très long. Il n'y a pas beaucoup de places comme ça dans la Ligue nationale à part Détroit, Edmonton, là, puis Montréal. Là, je pense que c'est les trois places où les bancs sont très, très longs. Puis tu peux mettre une seule personne entre les deux bancs pour la diffusion des matchs. Puis Kapanen lui a dit, ben moi, je n'irai pas ouvrir la porte du banc des joueurs. Je vais passer par-dessus la bande là où j'étais, évidemment. Puis oui, j'ai vu Oliver Kapanen de près, mais dans ce temps-là, le truc, c'est de faire attention aux bâtons. C'est les bâtons qu'il faut surveiller absolument parce qu'ils arrivent très rapidement. Puis on s'entend que lorsqu'il y a une mêlée, les joueurs, leurs bâtons, ils savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec leurs bâtons. Donc, c'est la chose à vérifier à chaque fois.
Ouais, la collègue Daphné Malbeuf, lors d'un match du Rocket entre les deux, marche un bâton en plein milieu du front.
Elle en a fait une commotion.
Ah ouais, puis elle a manqué du travail à cause de ça. Là. On la salue d'ailleurs, Daphné.
T'es sûr que c'était pas une rondelle?
Non, c'est un bâton. C'est le bâton de Mitch Stevens. Ma mémoire est fidèle qu'elle avait reçu en plein dans le front.
Le pire, c'est que j'écoutais, là j'oublie son nom, l'ancien backup de Roberto Luongo qui travaille pour TSN, peu importe, mais lui disait que... Jamie McLennan, exact. Merci beaucoup, Anthony. Jamie disait en fin de semaine, j'en revenais pas, qu'il a fait deux commotions cérébrales en travaillant entre les bancs dans des matchs de hockey. J'ai trouvé ça un peu surprenant, je vais t'avouer un peu.
C'est quand même particulier.
Oui, c'est quand même particulier. Je ne suis pas convaincu de ça, mais je sais que Rob Ray, lui, a reçu deux rondelles là, dans les deux dernières saisons au visage. Parce qu'il ne regarde pas. Je veux dire, tu ne peux pas commencer à regarder à droite et à gauche. Il faut que tu regardes la rondelle. Ou sinon, si tu ne regardes pas la rondelle, c'est sûr qu'elle va te chercher. Ils ont des yeux, ces rondelles-là, puis j'imagine qu'il y en a des rondelles qui t'aiment moins que d'autres. Éventuellement, ils vont venir te chercher.
Mais il n'y a pas eu Pascal Leclerc aussi. Pascal Leclerc. Il était prône aux blessures, là, assis sur le banc.
Mais oui.
Il s'était blessé de même.
Oui.
Ouais. Oh oui. Et une longue commotion là, pour Pascal. Là. Je me rappelle, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on le revoie devant le filet des sénateurs d'Ottawa par la suite. Bref, c'est une position qui te demande d'être extrêmement attentif sur ce qui se passe sur la glace parce que souvent, c'est pas qu'un joueur va lancer la rondelle dans ta direction. On est entre les deux bancs, ça a aucun rapport. Il n'y a aucune raison d'envoyer une rondelle où je suis placé parce que d'une manière ou d'une autre, les joueurs sont à ma droite puis à ma gauche. C'est les rondelles déviées.
Exact.
C'est toujours des rondelles déviées, le vrai danger. À part Piqué Subban, qui lui aimait ça, fouille-moi pourquoi, Piqué, lorsqu'il était dans le coin gauche, là, donc tu as le banc des Canadiens, là, on descend plus bas vers la gauche, là, lui aimait ça, flipper la rondelle sur le banc des joueurs. Et écoute, il était pas capable de sortir de la rondelle. Il fallait qu'il flippe dans le banc des joueurs. Ça tombait où, tu penses?
À cause de toi.
Évidemment. Oui, puis là, tu vois absolument rien. Les joueurs voient rien parce que la rondelle, elle est noire, puis la façon dont on voit les angles, tout ça, la rondelle, c'est sûr qu'elle va venir te frapper.
Hey, Renaud, moi, là, j'ai une question pour toi, là-dessus, là. C'est quoi la pire insulte que t'as entendue entre les deux bains d'une équipe de la Ligue nationale?
Celle la plus drôle, là, que, puis c'est Mark Stone à Max Pacioretty. C'était un TV timeout, donc c'est une pause publicitaire. On est en troisième période, puis là, ça a commencé à aller mal là, pour les Canadiens de Montréal. Là, c'est vraiment les derniers moments de Max avec les Canadiens. Puis là, Mark Stone s'est installé pendant le TV timeout, puis il regardait Max Pacioretty. Moi, je suis entre les deux. Je suis à la ligne rouge. Les deux viennent se jaser devant moi. Là, Mark Stone le regarde, puis il dit: t'es au courant qu'il n'y a aucun de tes coéquipiers qui t'aime, hein? Puis là, Max Pacioretty, là, il disait non. Il dit: je te le dis, Max, là. Il dit: il n'y a personne qui t'aime dans ton club. Et là, c'est là où Pacioretty était là: ben non, c'est pas vrai, c'est un mensonge, n'importe quoi. Puis là, ça s'assinait comme des enfants, là, tu sais. Oui, je te le dis, il n'y a personne qui t'aime. Tu dis n'importe quoi, puis c'est sûr que les gars m'aiment. Puis là, tu comprends un peu le scénario. Donc, c'est peut-être pas la celle qui fait le plus mal, mais c'est celle où j'étais vraiment crampé. Je riais, je me disais: tabarouette de Mark Stone, là. Il vient juste jouer dans la tête de Max Pacioretty. Puis, je l'avais déjà entendu aussi après, dans d'autres matchs plus tard, où il y a eu des joueurs, justement, qui utilisaient cette même ligne-là. Et je trouve ça fascinant.
C'est très, très bon. Hey, Renaud, le Canadien, en fin de semaine, 23 lancés, 6 buts marqués et tous contre des grands gardiens. Là. Pas de fait des airs là-dedans. Là. On peut pas dire que le Canadien n'est pas opportuniste. C'est plus qu'un but aux 4 lancés. C'est incroyable.
C'est incroyable. C'est de même depuis un bout, là, depuis le début de la saison. Puis, quand je regarde, justement, moyenne de lancer par match. OK, les Canadiens sont 31e, les gars, dans la Ligue nationale. 24,9 lancés pour dans une rencontre en moyenne.
Hey, c'est pas beaucoup. C'est 8 lancés par période. Là. C'est vraiment pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Les Flyers sont à 24,8. Donc, on est à 1 des Flyers de Philadelphie. Les Sharks sont 30e à 25. OK? Puis, l'autre point qui est intéressant, c'est de voir tes occasions de marquer. On en parle souvent ensemble. Tes occasions de marquer de très haute qualité. OK? Les Canadiens sont encore là, 31e dans la Ligue nationale de hockey. Puis, c'est pas des statistiques qu'on voit souvent. Écoute, c'est surprenant même de voir ça, je vais être honnête avec vous. C'est 154 occasions de marquer dangereuses pour les Canadiens. OK, je le répète, 31e, 32e rang, c'est Salt Lake. Excuse-moi, pas Salt Lake, le Kraken de Seattle qui en a 130, donc 24 de moins, ça c'est vraiment pas beaucoup. Mais ça reste que les Canadiens sont opportunistes, puis quand on regarde les statistiques avancées, qui sont plus avancées que tout ce que je viens de vous dire là, le tricolore a 11 buts de plus de marqués que les attentes. Qu'est-ce que je veux dire par les attentes? C'est qu'il y a 11 fois le gardien de but adverse aurait dû faire l'arrêt sur le type de lancer qu'il a reçu et 11 fois la rondelle s'est retrouvée derrière le gardien de but.
Ben ouais.
On est premier dans la Ligue nationale à ce chapitre. Les Ducks sont deuxièmes, les Sharks et les Maple Leafs suivent et les Sénateurs. Donc, mais ça revient un peu à regardez les buts de Cole Caulfield en fin de semaine.
Mm-hmm. C'est pas des chances de marquer, ça, là.
Non.
C'est deux chances de marquer qui n'en sont pas une qui finalement se retrouve dans le filet.
Un bon marqueur est un bon marqueur. Puis des fois, les bons marqueurs vont s'en ressortir mieux que d'autres parce qu'ils ont le flair pour des occasions comme celle-là.
T'as tout compris. Puis là, maintenant, le fait justement que Cole, tu vois qu'il a beaucoup plus de maturité dans sa game sur 200 pieds, on en parle, mais il a plus de maturité dans sa game aussi offensivement. Pourquoi? Parce qu'il a, il a pas tout vu, mais il prend tellement de maturité. Il connaît, je pense, les tendances des gardiens de but. Il doit vraiment les étudier, voir justement qu'est-ce qu'ils font plus souvent qu'autrement. À force de jouer contre eux aussi, c'est comme un ordinateur. Tu es capable justement de trouver peut-être des occasions de marquer que tu pensais pas disponibles avant. Ça, c'est la première des choses. Mais l'autre chose aussi, Puis ça, on en a parlé beaucoup, puis je pense que ça change grandement les choses de cette équipe-là. C'est que tu as maintenant là, trois trios qui sont capables de marquer. On l'a vu encore avec Kirby Dach, bon, qui est peut-être le seul présentement sur son trio qui marque, là, j'en conviens, mais au moins depuis trois rencontres, ce trio-là est capable de créer beaucoup plus offensivement. Ensuite, quand tu rajoutes Ivan Demidov dans ta formation, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu deviens automatiquement beaucoup plus dangereux. Puis ça permet à Oliver Kapanen, présentement, d'avoir beaucoup plus de buts qu'on s'y attendait. Soyons honnêtes, là, qui pensait qu'Oliver Kapanen aurait 6 buts déjà, là? Moi, je suis pas capable de lever la main.
Mais non, moi non.
Pas du tout, même. OK, je vais être très honnête. C'est sûr que il est très bien complété avec Alex Newhook et Ivan Demidov, mais ça reste que je ne pensais pas, en tout cas, je ne voyais pas beaucoup d'offensive dans ce joueur-là l'an dernier. C'était 16 lancés au total dans 17 rencontres. Il ne lançait pas au filet, n'allait pas dans les zones dangereuses. Et là, maintenant, c'est tout le contraire. J'ai un joueur qui accepte les mises en échec, qui accepte d'aller devant le filet, qui prend des bons lancers, qui est agressif dans sa façon de jouer offensivement, qui n'est plus du tout gêné peut-être par rapport à ce qu'il faisait l'an dernier. Quand tu as des joueurs comme ça, les gars, ça fait en sorte que les Canadiens de Montréal, présentement, n'ont plus de complexe. C'est quoi le complexe des Canadiens? À part de se dire faut mieux protéger nos avances.
Ouais, je dirais de ne pas se faire scorer sur le premier but, c'est sur le premier lancé, ça l'aiderait aussi.
Bon, ouais, je suis d'accord avec toi, mais tu sais que moi, que ça, c'est un flou.
Oh, ouais,
tu comprends?
Je
sais. Tu sais que c'est surtout là. Tu sais, que le coach ne commencera pas à aller voir le goaler en disant il faudrait vraiment que tu t'arrêtes le premier lancé.
dans le cas de Kapanen, puis je veux faire un petit peu du pouce là-dessus avec toi, Renaud. Là. Dans son cas, là, ce qu'on voit présentement, c'est un gars qui est capable de s'ajuster avec. Ouais. Ce qu'on lui présente comme scénario. Puis moi, ce que j'observais de lui l'an passé en Suède, surtout en séries éliminatoires, parce que avant qu'il s'en vienne en Amérique du Nord, j'ai eu la chance de regarder quelques matchs de lui en Suède. Bien, il jouait à pointe en avantage numérique. Puis c'était le joueur de centre numéro 1 de son club. Puis je comprends, là, c'est pas le même niveau de jeu, mais il n'y en a pas moins que la Ligue élite de Suède. Tu joues avec des gars pas mal plus âgés. Donc oui, c'est quand même un baromètre intéressant quand un jeune s'apprête à faire le saut en Amérique du Nord et s'impliquer dans la Ligue nationale. Kapanen, il s'est ajusté à ça l'an passé. Il arrive ici un rôle différent. On lui donne de l'infériorité numérique. Il réagit bien. Puis il complète un gars bourré de talent à Ivan Demidov de la bonne façon parce qu'il amène énormément de rythme dans sa game. Ce qu'on voit présentement, c'est un gars de la Ligue nationale à long terme chez le Canadien. Je pense que avant de limiter son plafond, moi, j'ai surtout hâte de voir jusqu'où il peut aller. C'est peut-être juste la pointe de l'iceberg avec lui, là.
Oui, oh, il y a pas de doute parce qu'écoute, là, la différence là, de joueurs qu'on a devant nous entre l'an dernier et cette année, c'est un monde. Là. Je m'excuse de dire ça comme ça. Là. Je sais que les gars, vous avez ri de moi un peu cette journée-là, mais je sais aussi que j'étais pas tout seul à penser ça, qu'il fallait enlever Oliver Kapanen, le match numéro 5. Face aux Capitals de Washington, il fallait mettre Michael Pezzetta parce que je trouvais que ce kid-là sur la glace, mais il avait connu un bon match numéro 5, mais ce kid-là sur la glace ne faisait absolument rien là pour aider son équipe. Peut-être qu'il était bon dans sa zone défensivement, mais je veux dire, t'as besoin de plus de choses en séries éliminatoires pour amener ton équipe à un autre niveau. Maintenant, je le regarde jouer. Puis je me dis, écoute, il y a quelqu'un chez les Canadiens, je sais pas si c'est Martin Saint-Louis, Kent Hughes, ou c'est le groupe avec le groupe d'entraîneurs de Laval, quand on a décidé au camp des recrues que Kapanen allait jouer avec Demidov, puis ça allait être ça tout le long du camp. Puis je veux dire, je veux pas utiliser le terme éclair de génie, mais c'était la chose à faire. Puis on a été capable rapidement de voir qu'est-ce que ces kids-là pouvaient faire ensemble. D'ailleurs, Kapanen, dans le deuxième match des recrues, n'avait pas Demidov à côté de lui, puis il avait connu une très bonne rencontre sur 200 pieds quand même. C'était Winbeck qui prenait sa place. Bref, ça avait été un joueur qui était ressorti du camp des recrues avec, selon moi... Pas loin de lever la main en disant « je suis prêt ». Là. Puis chez les Canadiens, on lui a pas donné le poste non plus, pas plus qu'à Demidov en passant. Même si on savait que Demidov commençait la saison avec les Canadiens, là, on lui avait pas donné son poste sa place dans le vestiaire de l'équipe, là, à Brossard. Il fallait qu'il y ait de l'autre côté de la patinoire avec les autres joueurs qui tentaient de faire leur place dans l'équipe. Puis ces gars-là, ils ont rentré par la grande porte, on va le dire, dans le vestiaire des Canadiens par la suite, avec tout ce qu'ils ont fait dans le camp d'entraînement. Moi, je suis très impressionné et ça revient un peu à nos attentes par rapport aux buts marqués, par rapport aux faiblesses de cette équipe-là. Là, ils peuvent. Les Canadiens présentement regardent toutes les équipes dans le blanc des yeux et leur disent parfait, peu importe la game que vous voulez jouer, on va la jouer. Puis en fin de semaine, ça a été ça. Le Mammouth a dominé là, pendant une certaine partie de cette rencontre-là. Là.
Oui.
Mais tu as Samuel qui a été solide, qui a pété la ballonne, qui a enlevé l'oxygène que le Mammouth avait. Puis à partir de ce moment-là, ça a été une machine offensive qui était plus arrêtable, celle des Canadiens.
Exact.
C'était un spectacle assez incroyable à voir. Alors, on est opportuniste, mais on est aussi très talentueux.
Mais
c'est ça la grande différence.
Ah ouais, puis c'est le fun à regarder ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je te dirais même c'est pas mal l'inverse. Je pense que les équipes, quand ils regardent que le Canadien s'en vient sur le calendrier, ils se disent « OK, ce sera pas facile ce match-là. Il va falloir être prêt. » Renaud, t'es pas chez toi. On le voit sur le YouTube présentement.
Oui.
T'es à Toronto parce que après-midi, ce sera la cérémonie du Temple de la Renommée. C'est ce que tu nous parles. Au retour. Conversation avec Renaud Lavoie. Alors, je le disais avant la pause, Renaud est à Toronto parce que ce sera la cérémonie du Temple de la Renommée. Il y a quelqu'un de chez nous qui va être honoré, Renaud.
Hey, ça, c'est le fun en tabarouette. François Gagnon, qui travaille évidemment à RDS, mais qui a travaillé partout. François, il a travaillé au Journal Le Droit, il a travaillé au Soleil, il a travaillé au Journal de Montréal, à la presse, je pense que...
Travaillé ici.
François.
Chroniqueur chez nous.
Ah, oui.
C'est ça. Écoute, François a travaillé partout. C'est un travaillant. Puis il va remporter le trophée Elmer Ferguson, qui est remis, si vous voulez, à un journaliste à toutes les années, qui a marqué la couverture du hockey dans la Ligue nationale. C'est une cérémonie qui va avoir lieu à midi aujourd'hui. Évidemment qu'il va être là ce soir à la cérémonie principale, mais on fait toujours une cérémonie aussi indépendante avec les membres de la famille. Gary Bettman y est souvent, etc. Puis c'est une cérémonie où je vais être très honnête avec vous, là, c'est très, très rare que je dis à quelqu'un, je veux absolument être là, là. Mais celle-ci, j'ai dit à François, je veux y être. François, moi, je vais vous dire comment je l'ai connu, François Gagnon. J'étais un petit cul à Hull. J'avais 15 ans, puis j'ouvre le journal Le Droit le matin. Puis, en première page, il y a un gars qui s'appelle François Gagnon, qui a sauvé la vie d'une dame.
Hein?
Qui s'appelle ouais Monique Boudria, qui est la sœur d'André Boudria. Il la connaissait pas, évidemment, à ce moment-là. Mais François était chroniqueur des fêtes d'hiver à la radio à CKCH, à Hull. CKCH, c'est une station de radio qui n'existe plus, mais qui était à l'époque une station emblématique. C'était la station numéro 1 dans l'Outaouais avec CJRC. Radio AM, évidemment. Et puis, François savait qu'il y avait un endroit à Hull, là, je pense que c'est le pont McDonald's quartier, où il y avait eu de la glace. Il y avait eu une auto, justement, qui avait dérapé puis s'était retrouvée en bas, si tu veux, pendant la nuit. Donc, François s'était placé à cet endroit-là pour faire son reportage à la radio. Et pendant qu'il faisait son reportage, dans les moments où, mais je pense qu'il était en onde, il a vu une autre radio, une autre voiture. François a vu une autre voiture tomber sur la glace dans la rivière des Outaouais.
OK.
Et il a mis fin à son entrevue et il est parti à courir et il a été sauvé, Monique Boudria. Et écoute, moi, ça m'a marqué, c'est parce que François, évidemment, j'avais 15 ans, je ne le connaissais pas, mais j'ai appris à le connaître à partir du moment où il a été un héros, où il a sauvé la vie de quelqu'un. Par la suite, évidemment, les sénateurs d'Ottawa sont arrivés en 92-93. Ça a été donc le début de sa carrière sportive qui l'a amené partout au Québec. On a parlé de tous les journaux pour lesquels il a travaillé. Et c'est un gars que j'ai toujours apprécié. J'ai toujours aimé justement le fait qu'il était toujours prêt à aider les autres. Quand je suis arrivé à Montréal, viens rester chez nous. Inquiète-toi pas, François. Mon frère reste à Montréal. Mon père aussi. Pas de problème. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui t'invitait, qui essayait de te guider le plus possible dans ton métier, etc. Puis, quand les Canadiens ont été éliminés cette année face aux Capitals de Washington, On regardait, mon patron et moi, Louis-Philippe Neveu et moi, les endroits où peut-être je devrais poursuivre ma couverture. Mm-hmm. Puis là, ben, il restait plus grand-chose. Le Lightning avait été éliminé, etc. Donc, j'ai dit, ben, pourquoi qu'on va pas finir Jets contre Blues? Parfait, va à Blues, là. On va faire le match de demain des Blues, match numéro 6. Puis en arrivant là-bas, on s'attend que c'est un hasard, mais il y a un des dirigeants qui s'occupe justement du trophée qui est remis à une fois par année à un journaliste qui couvre les activités de la Ligue nationale. Il y a quelqu'un, un membre là-bas, un dénommé Rutherford, qui est venu me voir et m'a dit, Renaud, il faut que je te parle. Écoute, je veux. On a François, on a Michael Russo qui travaille pour The Athletic, qui couvre les activités du Wild. On est sûr qu'il va le gagner un jour, ce trophée-là. Mais on a François Gagnon aussi. Puis pourquoi tu donnerais ce trophée-là à François Gagnon? Puis j'ai dit, c'est bien simple. J'ai dit, François Gagnon, j'étais avec lui hier soir. Le Canadien vient d'être éliminé. On est à l'hôtel. On jase autour d'une table. Il est minuit et demi. Puis François Gagnon me regarde, puis il nous regarde tous, puis il dit, « Hey, je vous laisse les gars, faut que j'aille travailler, j'ai un texte à écrire. » Je trouve moi des gars qui ont 62, 63 ans, qui à minuit soir vont décider de laisser partir une gang de gars qui prennent un petit bière tranquille pour dire, « Les gars, faut que je vous laisse, faut que j'aille écrire. » J'ai dit, « J'en connais pas un autre qui est comme François Gagnon. » Alors, à partir de ce moment-là, le gars me regardant en disant, « Parfait, c'est beau. » On a notre candidat, c'est sûr qu'on va lui donner. Mais ce qui était difficile pour moi, c'est de pas appeler François
pour lui dire,
hey, ben oui. Mais là, je me suis dit, je ne l'appellerai pas. Je ne sais pas s'il est au courant, s'il est un candidat cette année pour le temps de la renommée ou non. Alors, j'ai décidé de l'appeler, évidemment, après la nomination.
Il l'a appris live on air, hein?
Ben oui, à RDS, c'est en fait, hein? Vraiment,
vraiment bon, ça.
Mais c'est...
Ah oui, c'était de toute beauté avec Frank Saravelli qui lui fait l'annonce. Puis écoute, j'avais plus de larmes que François, je pense, que quand j'ai regardé le reportage. Mais de ce que j'ai compris, il y a eu du montage aussi qui a été fait dans ça. Parce que je trouvais que François était tellement de glace. Mais ça reste que je pense qu'il était, mais émotivement dedans, ça travaillait très fort.
C'est sûr.
Il y a beaucoup de fierté à avoir. Puis, tu sais, en même temps, tu regardes avec qui il rentre aujourd'hui. Tu sais, Zdeno Chara, c'est plus grand que nature. Je dirais que François Gagnon, c'est plus grand que nature. Alexander Mogheni, il était temps. Duncan Keith, Joe Thornton, c'est plus grand que nature. Ah. Daniel Sauvageau aussi.
C'est toute une cuvée, temps. Là. Mais hein.
Toute une cuvée. Jennifer Butterhill. Bref. C'est le fun de voir ça, puis c'est le fun de voir que des gens d'ici sont récompensés. Les gars, puis je veux pas. C'est normal que quand le temple de la renommée est à Toronto, que c'est des gens, des anglophones plus souvent qu'autrement. Je sais que Marc Defoix fait une maudite bonne job de ce côté-là pour parler des Québécois, etc. Puis je salue Marc Defoix qui travaille avec acharnement. Mais c'est pas facile quand tu parles une autre langue, quand tu viens pas de la même place de rentrer au temple de la renommée. Le temple a quand même une ouverture d'esprit, il faut le souligner. François n'est pas le premier, on a eu Pierre Houde l'an passé qui a été intronisé aussi. C'est le fun de voir ça, puis c'est le fun de voir des Québécois, des gens de chez nous être récompensés. C'est pas évident de l'être. Puis quand tu parles français, ça l'est encore moins. Alors, chapeau à ceux qui vont être intronisés aujourd'hui.
Chapeau à François Gagnon, effectivement. Puis bel hommage que tu lui as rendu, Renaud. C'est tout à ton honneur. On va pouvoir te réentendre avec nous demain dans le tailgate. Dans le club du matin, mais on t'entend aussi dans le tailgate où tu pourras te vanter avec tes Bears de Chicago.
Oh! Fais du bien, celle-là.
C'est bon. Salut, Renaud.
Salut, Renaud.
À demain. Salut, les gars, demain.